Aujourd'hui, vous avez même le titre, Seigneur. Alors, je reprends en fait le texte que j'ai commenté la dernière fois. Ceux qui se demandent carpe diem, ça veut dire quoi? Ça veut dire cueille le jour présent. Donc, je reprends le texte que j'ai commenté la semaine dernière, à savoir Ecclésiaste chapitre 2, versets 24 et 25. Je commencerai même un peu plus tôt. Je vais commencer au début du chapitre 1, puis au chapitre 2, verset 20. Et en fait, c'est l'ensemble de l'Ecclésiaste que je voudrais convoquer, si je peux employer ce langage. Et grosso modo, je voudrais vous inviter à entendre intérieurement cette tension qui habite le livre, cette tension entre la futilité et le don de Dieu et le carpe diem. C'est ça que je voudrais vous proposer finalement ce matin. Je commence par le début du livre. Futilité complète, dit Qohélète. Qohélète, c'est l'autre nom pour l'Ecclésiaste. Hein. Futilité complète, dit Qohélète. Futilité complète, tout n'est que futilité. Quel avantage l'être humain retire-t-il de tout le travail qu'il fait sous le soleil? Une génération s'en va. Une génération vient et la terre subsiste toujours. Chapitre 2, verset 20. J'en suis venu à me décourager de tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Y a-t-il quelqu'un qui a travaillé avec sagesse, connaissance et succès? Voici que sa part est donnée à quelqu'un qui n'y a pas travaillé. C'est encore là une futilité et un grand mal. En effet, que revient-il à l'homme de tout le travail et de toute la préoccupation qu'il s'est donnée sous le soleil? Tous ses jours ne sont que tourments. Ses occupations, contrariétés, même la nuit, son cœur n'a pas de repos. C'est encore là une futilité. Il n'y a rien de bon pour l'homme. On pourrait traduire aussi, c'est un peu différent, ce qui est bon pour l'homme, c'est de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Moi, je l'ai vu, ça, cela vient de Dieu. Qui donc peut manger et éprouver du plaisir en dehors de moi? Autrement dit, je suis bien placé pour vous en parler. Car à celui qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Portrait, témoignage d'un homme qui cherche à rendre compte du réel. Portrait, témoignage d'un homme qui cherche à rendre sens, qui cherche sens dans une réalité qui l'impacte en tout son être. En quelques lignes, il est question autant de découragement, donc on est au feeling, si je peux dire, que de choses bonnes, de joie. Le réel est le réel du croyant, parce que c'est un croyant qui écrit. Le réel dans son détail ne se laisse pas résumer avec facilité. Et j'ai envie de dire que l'Ecclésiaste est un lutteur avec le réel. Et c'est probablement un des rares livres de la Bible qui s'arrête sur cette lutte avec le réel. Et on le sent dans l'Ecclésiaste. Et nous sommes aussi, chaque humain, chacun d'entre nous ici, chacun des absents, des non-présents, des lutteurs avec le réel. Et nous sommes aussi je voudrais l'illustrer en fait, avec le fait que nous sommes aussi des lutteurs avec l'Ecclésiaste. Nous lisons ces passages, ce livre, et nous essayons d'en rendre compte. Et l'Ecclésiaste aussi nous impacte. Il impacte ce que nous croyons juste, bon, approprié de penser, juste, bon, approprié de faire. Et je pourrais l'illustrer en faisant appel à des lecteurs contemporains, mais je voudrais l'illustrer en vous invitant à prendre connaissance de ce que des nous qui sont plus anciens que nous, d'autres nous qui appartiennent à ces générations qui passent comme la nôtre et qui sont passées, donc des nous qui appartiennent à des générations qui sont passées, comment ils ont compris ce passage. Donc je vous invite à un petit voyage dans le temps, ça va être un petit peu, voilà, ça va être comme ça sera, vous verrez. D'autres nous ont médité ce livre, se sont placés à l'écoute de Dieu devant ce livre. Seigneur, que dois-je entendre? Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Il n'y a rien de bon pour l'être humain que de manger, de boire et de voir le bonheur dans son travail. Les commentateurs anciens, en tout cas, se sont arrêtés au manger et boire. Ils ont oublié d'ailleurs le travail au passage, mais je ne vais pas en parler maintenant. Et dans le judaïsme ancien, par manger et boire, eh bien, les lutteurs avec l'Ecclésiaste ont vu, ont compris. Manger et boire, ça ne veut pas dire manger et boire. Ça veut dire accomplir les commandements du Seigneur. Il n'y a rien de bon que d'accomplir les commandements du Seigneur. Et ainsi, les verbes du verset 25, manger, éprouver du plaisir, ont été rendus, reformulés par approfondir les paroles de la loi, les paroles de la Bible, et se préoccuper du jour du jugement qui viendra. Je voudrais juste vous dire que cette façon de comprendre... vous n'êtes absolument pas d'accord. Si vous étiez là la semaine dernière, ce n'est pas ce que j'ai proposé. Je voudrais juste dire que cette façon de comprendre a irrigué toute l'histoire juive, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on la trouve encore aujourd'hui reprise chez des lecteurs contemporains. Donc elle a marqué tous ceux qui commentaient l'Ecclésiaste, et elle a marqué tous ceux qui étaient à l'écoute de leurs commentaires, que ce soit des rabbins, des pasteurs, si on peut dire, tous ceux qui étaient à l'écoute de l'Ecclésiaste d'une génération sur l'autre. Alors, je vais un peu vite, bon, c'est pas grave, vous l'avez vu, maintenant c'est fini. Regard analogue, si on prend maintenant, on passe côté chrétien, chez les auteurs chrétiens anciens. Et pour ces auteurs, c'est aux nourritures spirituelles qu'il faut penser. Il s'agit pas de pain et de vin, enfin, il s'agit pas de manger et de boire. Enfin, il s'agit de manger et de boire la scène, l'Eucharistie. Le mot Eucharistie veut dire rendre grâce, hein, c'est l'action de grâce. Donc, je cite, « Il se trompe, dit un auteur du IIIe siècle, un auteur grec, il se trompe ceux qui, en entendant ces versets, salivent en pensant aux nourritures terrestres. » Les versets précédents, en effet, je les ai lus, nous faisaient voir la vanité de cette vie. Donc, il ne peut pas s'agir des choses de cette vie. Ce n'est pas possible. Son caractère décourageant, limité. Avec le verset 24, dit cet auteur, il s'appelle Denis. Bonjour Denis. Denis est en haut, mais pas lui. On passe au mystère du Christ, c'est-à-dire à la table mystique, à la scène. Même lecture chez un auteur du IVe siècle, c'est de la scène qu'il s'agit. Et pour lui, c'est pas simplement la scène, mais c'est la scène sert de symbole pour les vertus, pour la science. Qui, en effet, je cite, sans le Christ, pourra manger ses chairs et boire son sang, lesquels sont les symboles des vertus et des sciences ? Et un autre auteur du IVe siècle, même ère géographique, mais à une autre approche, il dit ce qui est important, donc manger et boire, c'est pas la scène, c'est pas l'Eucharistie. C'est ce qu'on lit au verset 26, la sagesse, la justice, l'impassibilité. C'est-à-dire on accueille les choses qui arrivent avec sérénité. Ceux qui se préoccupent des aliments matériels, quand vous lisez manger et boire, et si vous pensez que ça veut dire manger et boire, bien c'est, en fait, c'est les pécheurs qui se préoccupent de ça. Et donc l'Ecclésiaste, ici, pour lui, nous inviterait à mettre en pratique les vertus, à nous dégager d'une vie qui est marquée par les passions, à nous attacher aux choses d'en haut. Donc ça, c'était côté grec, je passe côté latin, lecteurs occidentaux. Un auteur bien de chez nous, il s'appelle Guillaume d'Auvergne. 13e siècle. Manger et boire, ça veut dire que ce qui est bon, c'est manger et boire. Mais qu'est-ce que ça veut dire manger et boire ? Manger, ça veut dire la contemplation. C'est la restauration de l'esprit par lequel l'esprit humain est restauré par les délices spirituels. Donc, voilà. La contemplation et boire, c'est l'action, qui est aussi une restauration de l'homme intérieur. En agissant pour le Seigneur, je nourris mon homme intérieur. Car par les bonnes actions, il est nourri, il croit, il engraisse, il est fortifié, et aussi il trouve du plaisir. C'est en faisant du bien qu'on trouve du plaisir. Donc je résume. Pour ces lutteurs avec l'Ecclésiaste, le texte ne doit pas être pris tel quel pour le manger et le boire matériel. Je passe à un deuxième volet. Et en fait, ceux qui lisent, il est question de manger et de boire quand même... Une invitation à prendre ça comme manger et boire simplement, sont en fait moins nombreux, mais on en trouve quand même un certain nombre, on en trouve dans le judaïsme, un auteur du Xe siècle par exemple, j'ai relevé, un auteur du XIIe, et alors c'est là qu'il y aura des variations. Donc il y a un auteur du XIIe, il s'appelle Rashbam, Rabbi Shlomo, c'est un acronyme. Rabbi Shlomo Ben quelque chose. J'ai oublié la suite. Bon, peu importe. Donc lui, il dit, donc voilà, il s'agit bien de manger et de boire, mais ces choses-là, il dit, ne font pas partie de la vanité. Oui, tout est vanité, mais pas ça. Et puis un autre commentateur médiéval de la même époque dit, non, ça fait bien partie de la vanité. Donc autrement dit, et lui il dit, mais autrement dit, c'est pas très important, faut pas trop s'attacher à ça. Bon, il concède quand même que manger et boire, c'est quand même mieux que de pas manger et de pas boire. Si vous faites ça surtout pendant un certain temps, on s'en rend compte, voilà, les forces s'affaiblissent. Donc c'est, oui, c'est manger et boire, mais le souci du corps, c'est un bien relatif, mais le souci de l'âme, ça c'est un bien absolu. Manger et boire, c'est très bien, mais bon, l'essentiel, c'est pas là. C'est pas une fin en soi. Et puis, je propose encore deux étapes, hein, en disant que je passe maintenant côté chrétien. Donc aussi, on a des lecteurs qui disent, oui, ben voilà, il s'agit bien de manger et de boire. Et là, l'approche qui a peut-être le plus marqué l'histoire occidentale, c'est celle de Jérôme, qui a traduit la Bible en latin. Et il dit, oui, manger et boire, c'est bien des dons de Dieu. C'est ce que le texte dit. Mais celui qui accumule, juste pour accumuler quand même, il s'expose à la colère de Dieu. Donc n'entassons pas pour entasser. Et en même temps, et il lutte avec le texte. Il dit, juste avant, on a lu que tout est vanité. Donc il dit, oui, c'est important, mais bon, tout ça, ça reste vain quand même. Ça reste évanescent, ça disparaît. Donc puisque tout est évanescent, alors il faut passer au sens spirituel. Je cite, « Ce qui par conséquent est un bien, c'est prendre ces vraies nourritures et cette vraie boisson que dans les divins livres, dans la Bible, nous trouvons tirés de la chair et du sang de l'agneau. » Donc lui aussi revient à la scène. Donc en luttant avec l'Ecclésiaste, il ne peut pas s'en tenir à une simple lecture matérielle. Puis dernière étape pour cet aperçu historique. Pour d'autres lecteurs, pour d'autres lutteurs, oui, il s'agit bien de manger et de boire, mais c'est parce que l'Ecclésiaste cite ce que des gens disent, mais lui, il n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce que nous lisons, dit un auteur du 8e siècle, c'est le discours de celui qui ne craint pas Dieu. C'est celui qui ne craint pas Dieu qui dit ça. Est-ce que j'ai sauté une diapo ? Ah non, c'est bon. Certes, c'est un discours qui est valable pour le croyant, parce que si on ne mange pas et si on ne boit pas, on est mal, on est d'accord. Notre nature fugitive, je cite, est faite de telle façon qu'elle tient sa subsistance des aliments qu'elle prend. Et pour autant, il faut éviter la gloutonnerie. Donc manger, mais manger avec discernement et surtout être généreux. Et on retrouve la même chose, là, j'étais côté grec, on retrouve la même chose côté latin. Le précepteur de Charlemagne, il s'appelait Alcuin, donc dit oui, ça c'est le discours d'un homme dépourvu d'instruction. Même si c'est pas tout faux non plus quand même. Et un autre dira que là où si on voulait valoriser ça comme un don de Dieu, Coëlette lui nous invite à, alors je cite, la mesure dans l'épargne et la mesure dans le plaisir. Alors, je suis inquiet que le temps vous paraisse long parce que je dis, ok, on fait quoi avec tout ça? Juste voilà pour dire que les lecteurs de l'Ecclésiaste luttent pour comprendre le monde. Ils luttent pour comprendre l'Ecclésiaste. Et ils luttent pour comprendre une description qui, on en prend la mesure en lisant le livre, mais côte à côte deux choses. Des paroles qui nous disent que sous le soleil, tout est vanité, tout est futilité. Alors, on peut discuter de la traduction, mais je sais pas. C'est comme ça qu'on a compris le plus souvent. Et puis, en même temps, lutte pour comprendre l'affirmation. Mais ce qui est bon pour l'homme, ce qui est un don de Dieu, c'est pas simplement bon pour l'homme, ça me fait du bien, c'est que c'est un don donné par Dieu. C'est de manger, c'est de boire, et c'est de jouir, de voir le bonheur dans son travail. Et je suis frappé, c'est frappant quand on voit les commentateurs anciens surtout, je suis frappé de voir combien il est difficile pour ces lecteurs de la Bible, comme nous en sommes aussi, de faire place à ce qui paraît être de l'ordre de la nuance. Parce que quand on lit l'Ecclésiaste, c'est quand même, on a plutôt une impression triste, sombre. Et au moment où l'Ecclésiaste cherche à pondérer finalement ça en disant « Oui, il y a ça. » Il y a aussi des dons de Dieu là. Ces lecteurs anciens ont du mal à faire de la place à ce « et ». C'est comme si l'un devait effacer l'autre. Oui, au moment où il cherche à pondérer, on cherche à pondérer la pondération, si je puis dire. Je trouve ça frappant. au moment où l'Ecclésiaste cherche à pondérer cette tonalité de futilité, en disant il y a du beau, il y a des belles choses dans ce monde, il y a du don de Dieu dans ce monde. Ceux qui lisent l'Ecclésiaste vont dire oui, mais c'est pas vraiment le manger et le boire quand même, c'est pas tout à fait ça. Ou bien oui, bon, d'accord, il y a le manger et le boire, mais c'est pas le plus important. Ou pire encore, oui, ça c'est ce que disent les gens qui craignent pas Dieu. Donc cette difficulté à tenir ensemble ces deux choses, à marier ensemble ces deux affirmations, à marier ces deux réalités. À faire droit à l'un et à l'autre. À ne pas écraser l'un par l'autre. Alors je lis l'Ecclésiaste et je me dis que ce mouvement de pondération, cette hâte à pondérer, j'ai envie de dire qu'elle nous, je crois qu'elle nous habite tous. En tout cas, elle m'habite. Et j'ai envie de dire que c'est un phénomène très, très commun, en fait. Alors, je l'ai écrit au futur, mais je vais donner un exemple que j'avais tout à l'heure. Nous discuterons tout à l'heure, à la fin du culte, peut-être, les uns avec les autres, ou bien on discutera avec quelqu'un tout à l'heure dans la journée, et l'un va dire une chose. Et l'autre, parfois, en tout cas, quand il va pas tout à fait d'accord, va dire « oui, mais... » Et il va dire autre chose. Et assez souvent, le premier, quand il entend « oui, mais », alors il écoute ce qu'on lui dit, enfin, on espère, ou bien il n'écoute pas, il va dire « d'accord, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais... » Et il va redire ce qu'il est en train de dire. Et le deuxième, en général, enfin, assez souvent, va dire « d'accord, mais... » Et donc voilà, on est en. Ça peut. Alors après, ça se passe de façon différente. Ça peut monter dans le crescendo et puis à la fin on se tape dessus et le plus fort gagne ou il perd, j'en sais rien. Ou ça peut être juste. Ou ça se passe autrement. Et j'étais amusé ce matin. Excusez-moi de vous prendre un exemple. Mon épouse et Gilles dans le couloir, quand vous échangez au niveau de la chaleur, parce que l'un d'entre vous disait oui il fait chaud et l'autre disait oui en même temps il fait pas forcément si chaud que ça. Enfin, je sais pas trop si vous l'avez dit comme ça. Et puis vous répondiez comme ça. C'était amusant. C'était amusant. Enfin, moi je le vois de l'extérieur donc. Je suis aussi, moi aussi, dans ça. Nous y sommes. Donc, voilà, ça m'a frappé parce que j'avais ça en tête, ce que j'allais dire en tête. Donc, je crois que c'est vrai aussi à l'échelle de l'histoire. Je parle là de l'histoire chrétienne dans son ensemble, ou bien dans notre histoire à nous. Dans notre histoire à nous, il y a des moments où on insiste sur un aspect, et puis après, les choses, on garde cet aspect, mais on insiste sur un autre aspect. Et peut-être un des exemples les plus frappants, et on le trouve aussi dans nos débats entre nous, hein, il y a des moments où on insiste sur un thème biblique, et je pense par exemple à l'insistance sur le jugement de Dieu. Il y a eu des périodes de l'histoire où on a beaucoup, beaucoup insisté sur cet aspect, où on a dépeint en détail l'enfer. Par exemple, il y a des portraits. Si vous avez beaucoup menti, par exemple, eh bien, en enfer, vous serez accroché par un crochet à la langue. Donc voilà, on a beaucoup insisté pour inviter à se tourner vers Dieu en disant « Mais ta vie, c'est important, c'est grave. Enfin, ce que tu joues là, c'est pas anodin. C'est ta vie que tu joues en étant vivant et en mourant. » Donc on a insisté sur cette invitation à croire en Jésus-Christ, à se repentir, à se tourner vers lui. Et il y a eu d'autres périodes. Ou bien où c'est un tout autre accent, et tout aussi biblique, j'ai envie de dire, qui est mis en valeur, et qu'on va souligner. Oui, et Dieu est amour. Et on va beaucoup insister sur l'amour. Et ce mouvement, donc je le retrouvais sans doute dans mon histoire, mais on le retrouve dans l'histoire générale. Il y a un moment où on insiste, donc on passe à un autre aspect, puis à un moment donné, on dit, oui, Dieu est amour. Et en même temps, voilà, et en même temps, ce que tu vis là, c'est pas anodin. Et rappelle-toi aussi que Dieu t'amènera en jugement, c'est ce que dit l'Ecclésiaste à la fin, il termine par ça. Donc on est un peu dans un perpétuel balancement, si je puis dire. Donc nous luttons et nous luttons en nous avec des vérités qui peuvent paraître en tension. Et nous luttons avec un monde où nous vivons des choses difficiles, des choses dont nous mesurons la fugacité, la fragilité, et un monde où nous vivons aussi des choses belles. Et des choses qui réjouissent notre cœur. Et les choses peuvent être parfois si difficiles que nous avons l'impression que toute la vie est comme ça. Nous n'arrivons plus à goûter autre chose. Au point de ne plus voir les dons de Dieu qui se donnent à nous dans le quotidien. le manger et le boire, en l'occurrence le pain qui est sur la table. Et inversement, nous pouvons tellement tirer plaisir, des plaisirs de la vie, le manger et le boire, et, mais plus, ou raffiné de chez raffiné, que nous risquons de les poursuivre avec frénésie, voire même à les voir comme quelque chose qui nous est dû, et non plus comme un don, et il m'en faut davantage. Et là, c'est peut-être bon d'avoir de la piqûre de rappel de l'Ecclésiaste qui dit oui, il n'y a pas que ça. Donc je dis, je vois que l'Ecclésiaste luttait avec ces mêmes réalités, il luttait avec la vie. Donc il insiste, lui, sur l'aspect déroutant, l'aspect difficile, l'aspect fugace, mais il fait retentir aussi l'autre aspect. Et je crois qu'il nous invite à voir les deux ensemble. Et nous aussi, nous luttons. Nous aussi, nous luttons avec la vie et nous luttons avec l'Ecclésiaste. Notre vie est faite de cette lutte, de cette quête d'un équilibre, tout simplement, de cette quête de dire, de vivre un réel qui est déroutant et qui est complexe. Et j'aime à penser, je pense que quand nous nous efforçons de dire le réel, j'ai envie de dire que nous ne trouvons jamais les mots qui vont être justes, ou les mots qui vont être justes pour tout le monde. Même pas forcément pour nous. Je crois qu'il y a toujours quelque chose à redire à notre effort de décrire le réel. Il y a toujours une nuance à apporter. Même quand nous approchons le réel avec cet éclairage unique et pour moi tellement porteur de joie, de perspective que nous donne la foi chrétienne, la foi en Jésus-Christ. Nous sommes constamment en quête du bon dosage. Hein. Et le bon dosage va varier en fonction de nous, en fonction de notre interlocuteur. Quand j'aurai fini de prêcher tout à l'heure, avant 15h, je suis prêt à parier que plusieurs pourraient me dire « Oui, j'aurais bien aimé, ou pas forcément, on n'a pas bien aimé, tu aurais pu dire ça aussi. » Et d'ailleurs, pour tout vous dire, je risque, même si personne ne me dit quoi que ce soit, je risque de me le dire à moi-même. Et avant même de prendre la parole, ce matin, tu le poses comment, ton affaire ? Ou bien, tu aurais mieux fait de ne pas dire ça. Ou bien de ne pas le dire comme ça. Et vous pouvez le penser, vous pouvez me le dire, et je vais me le dire à moi-même. Il y a un commentaire à faire, il y a une nuance à apporter, il y a un contrepoids, il y a une pondération possible. Nous sommes constamment en balancement. Ce balancement, à mes yeux, l'Ecclésiaste nous l'apprend. Donc il ne s'agit pas de l'écarter, au contraire. L'Ecclésiaste nous l'apprend, c'est ce qu'il fait. Et j'aime penser l'Ecclésiaste, entre autres, comme ça, comme une école de la nuance. Parce que le livre de l'Ecclésiaste est un livre de nuance. Qui a sa force, justement, qui parle à des personnes qui n'ont même rien à voir avec la foi chrétienne. Je l'ai déjà dit, je crois, mais je le dis, je fais une parenthèse. C'est André Comte-Sponville, donc, qui est un philosophe plutôt athée, qui dit, j'ai pas lu la Bible, ou très peu, il y a qu'un seul livre que j'ai lu dans la Bible. Et qui m'est cher, c'est l'Ecclésiaste. Et il dit, si vous pouvez apprendre la philosophie autant que vous voulez, lisez l'Ecclésiaste, vous aurez tout compris. Pas mal pour un athée. Donc, le livre de l'Ecclésiaste est un livre de nuances, et il nous introduit dans une vie qui est chargée de nuances. Et surtout une vie où des vérités doivent être tenues ensemble avec d'autres vérités, qui peuvent être en tension. Et je crois que même en étant chrétien, notre réalité chrétienne, elle est comme ça. L'Ecclésiaste est positif parce qu'il est bien conscient qu'il y a des choses qui valent mieux que d'autres. Donc il ne s'agit pas de dire, ben, on ne peut plus rien dire parce que tout est tellement vague et puis ça dépend des situations. Puis voilà. Donc, du coup, non, l'Ecclésiaste tient le discours et mieux vaut telle chose que telle chose. Donc il a mieux vaut agir de telle façon que de telle façon. Donc il y a bien des lignes qui nous sont données. Et en même temps, il martèle que ces lignes ne vont pas marcher à tous les coups. On le retrouverait aujourd'hui en langage en milieu chrétien, puis à l'extérieur. Un certain nombre de propositions nous sont faites de dire, voilà, il y a des lois spirituelles qu'il faut appliquer, si tu appliques les lois spirituelles, tu seras béni. Bon, l'Ecclésiaste a de fortes chances de nous dire, oui, peut-être, il vaut mieux peut-être faire ça que ça, mais ça marche pas à tous les coups. Pas plus que les prétendues lois qui régissent le développement personnel. Faites de la CNV, ça tient à la communication non violente, et ça sera tellement mieux, vous allez voir. Ben, on peut pas. Les prétendues lois qui régissent la vie de couple, la communication, la relation avec les autres, la recette du bonheur. Et comme croyants, nous avons, je crois, l'expérience que Dieu ne répond pas forcément à nos prières comme nous imaginons qu'il pourrait ou qu'il voudrait le faire, même si nous rajoutons au nom de Jésus, parce qu'il nous invite à prier au nom de Jésus. Donc, mais si on prend comme une loi, ben, si je prie au nom de Jésus, ça va marcher. Je crois que c'est pas forcément ce qui se passe. Le monde est plus grand. Dieu est plus grand que les formules dans lesquelles nous le résumons. Et le lutteur qu'est l'Ecclésiaste nous le donne à voir de plein fouet, je crois. Et il le fait particulièrement en nous faisant sentir le côté obscur de la réalité. Mais il le fait aussi en tenant ensemble deux réalités qui sont en tension. En insistant pour nous dire ces deux choses en tension du début à la fin de l'Ecclésiaste, comme deux pans de la même vérité. Donc il ne va pas dire tout est pourri, il ne va pas dire mais le mal ça n'a pas d'importance, c'est une illusion, non. Il dit tout est futilité et vanité, et il dit il y a la joie que Dieu donne. Et je trouve qu'il, pour moi, il m'invite à résister à tout effort de simplification du réel. Voilà le sens de la vie en deux clics. Voilà comment tu dois vivre en cette loi spirituelle. Le truc simple, cohérent, homogène. Dieu en trois coups de cuillère à peau. L'homme en deux temps, trois mouvements. Le bonheur en quatre accords, Toldec ou non. La volonté de Dieu en cinq balises. Certifié sans erreur, une vie épanouie, une vie chrétienne épanouie. Dieu est plus grand que ça. Pour entendre de l'Ecclésiaste, le monde est plus grand que ça. L'Ecclésiaste nous y rend sensibles. Et c'est décapant, à mon sens. Croyants ou non, nous restons et nous resterons traversés à la fois par la douleur, par l'insatisfaction à l'égard de cette vie, par l'épreuve dans cette vie, par la lutte au sein de cette vie, et en même temps, par les cadeaux merveilleux que sont le manger et le boire. Le fait de pouvoir avoir de la joie à vivre, de la joie à se retrouver, de la joie à s'embrasser, de la joie à voilà, on retrouve tel ou tel, et puis on dit, ouais, je voulais prendre de tes nouvelles, je suis content de te voir. Ou on ne le dit pas, mais c'est ce qui se passe en nous. Et c'est ça, c'est là que le don de Dieu est aussi. Les cadeaux que sont le fait de pouvoir avoir de la joie, de pouvoir travailler. Les chrétiens, nous aussi, nous restons marqués par la futilité, par la soumission à la futilité, tout en étant déjà habités, pénétrés de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ça, c'est le Nouveau Testament, mais plus loin que l'Ecclésiaste. Donc, il rajoute une dimension de joie plus intense. Et je fais allusion là à la lettre aux Romains, et c'est avec la lettre aux Romains que je voudrais clore. C'est là, en effet, si on cherche dans le Nouveau Testament les textes qui pourraient peut-être faire écho à l'Ecclésiaste, c'est là que se trouve probablement l'écho le plus sûr de l'Ecclésiaste. Paul semble le reprendre, et il continue à faire résonner ensemble les deux mêmes notes. Ensemble, la note de fragilité, de la souffrance, de l'aspiration à autre chose, quelque chose qui crie en nous dans ce monde. Et la note de confiance. Alimenté et même nourri, plus que dans l'Ecclésiaste, par les gestes de la bonté de Dieu envers nous. Je lis dans la lettre aux Romains, au chapitre 8, et au verset 20. La création a été soumise à la futilité, non pas de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance, futilité et espérance. Cette même création sera libérée de l'esclavage du périssable pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Bien plus, nous aussi, chrétiens, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption filiale, la rédemption, le rachat, je traduis, de notre corps. Car c'est dans l'espérance que nous sommes sauvés, que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Je saute quelques versets. Nous savons du reste, contrepoids, que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Qui nous séparera de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril ou l'épée. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je voudrais dire, même habité par la confiance, gardons conscience que ni nous, ni Dieu, ni la vie chrétienne ne se résument à des équations simples. Et même traversés par la douleur, par la perplexité, par la détresse, par l'angoisse, le dénuement, je reprends les paroles du texte, gardons conscience des dons de Dieu que sont déjà le manger et le boire, le travail. Et plus que l'Ecclésiaste, puisque nous venons après la venue de Jésus-Christ, gardons confiance à l'égard de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, manifesté par le don de sa vie. Et gardons confiance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Ici, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption filiale, la rédemption, le rachat de notre corps. Nous sommes de ce côté-là. Et en même temps, espérons ce que nous ne voyons pas. Attendons-le avec persévérance. Au moment du désespoir, peut-être, ouvrons les yeux sur les dons de Dieu. Tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principats, ni présent, ni avenir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que cette espérance habite en nous. Je vous invite à un moment de recueillement. Si l'un ou l'autre voulait prier, je voudrais aussi lui laisser l'espace pour le faire. Nous te disons les uns aux autres et tu n'es pas dans notre poche. Tu nous dépasses infiniment. Nous savons que nous croyons en un seul Dieu, et nous savons que ce Dieu s'est manifesté comme Père, Fils et Esprit. Et puis il y a tout ce qui compose notre monde, dans ce qui est douloureux et de ce qui est tellement joyeux. Et tout ça nous dit la même chose, qu'il y a bien plus que ce que nous sommes, que ce que nous pouvons mesurer. Merci de nous inviter à tenir ces choses ensemble. Je vois que combien pour moi j'ai du mal à le faire à bien des reprises. Je me vois faire porter mes insistances, et parfois au risque de perdre de vue ce qui se passe pour moi-même, ce qui se passe pour l'autre, et qui est vrai aussi. Merci de nous le dire, de me le dire. Et merci de cette volonté aussi de tout récapituler, de tout rassembler en Jésus-Christ. Merci de ton amour, en effet de cet amour, en effet de cette justice, de cette justesse, intarissable, inlassable, l'un avec l'autre. Que cela nous habite et nous réjouisse. Merci de venir tout particulièrement au secours, à l'aide de ceux qui parmi nous sentent les dimensions tourmentées de l'existence en ce moment. Merci de leur faire sentir, de leur faire voir ta grâce aussi. Et puis à tous, merci pour tous ceux qui sont plus dans la joie, dans l'action de grâce, à voir l'œuvre de Dieu pour eux et la joie que ça leur donne. Seigneur, pour tout cela, mais aussi en même temps, que nous restions sensibles aussi à la dimension de tragique aussi qui nous habite, ou qui peut habiter notre prochain juste à côté de nous. Nous nous confions à toi, en Jésus-Christ, avec gratitude pour cet amour qui nous donne avec grâce.